L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel et le lait, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Moïse dit encore, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, « L'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint un bâton de bois dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de ses pères, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit la main dans son sein. Puis il la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme sa chair. « S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront la voix du dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. » Moïse dit alors à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? Va donc, je serai ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Mais Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Ta parole, notre Dieu, est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier.
Voilà, vous venez d'entendre quelques versets du livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 7 à 11, puis au chapitre 4, les versets 1 à 13. Il s'agit donc du verset de la vocation de Moïse et de ses résistances à cette vocation. Alors, chers amis, nous voilà pour ce culte dans une situation pour le moins inédite et historique. Et c'est pourquoi ensemble, essayons de voir ce que cette page d'histoire qui se tourne et ce nouveau chapitre qui s'ouvre pourraient nous enseigner au travers de la peine que nous ressentons tous pour la perte de celle qui fut un repère stable, un peu comme cette maison construite sur le roc dont parle Jésus dans une parabole, ce refuge dans la tempête, ce roc de stabilité que la reine a su être au travers de tous les moments de joie comme de peine pour sa famille et pour celle de tant de générations à travers le monde. Alors je crois que peut-être une des choses les plus frappantes dans la vie de la reine Élisabeth, c'est ce sens aigu du devoir et de la responsabilité, qui est si développée chez elle qu'elle n'a pas vraiment hésité devant une vie peut-être un peu plus libre, plus anonyme, peut-être un peu plus dans l'ombre plutôt que dans la lumière. Non, elle a résolument, et très jeune, choisi la voie du devoir, quitte à renoncer à celle dont elle aurait pu rêver par ailleurs. Elle a totalement embrassé son rôle et sa responsabilité depuis la mort de son père, et même avant, déjà adolescente, et jusqu'à son dernier souffle. Il y a on la voyait encore il y a à peine quelques jours souhaiter le meilleur à Liz Truss qui prenait de son côté la direction du pays. Alors cette vie a inspiré pour moi la question suivante. Peut-on échapper à sa destinée? Peut-on toujours la choisir? Peut-on l'influencer? Ça pourrait en tout cas être un bon thème de réflexion qui mériterait bien plus qu'une simple méditation. Mais pour chercher des pistes de réponse, la famille royale à elle seule semble fourmiller de différentes réponses à écouter. Déjà avec l'accès au trône de son oncle David, sous le nom d'Édouard VIII, en 1936, et son abdication, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Avec cet Édouard, nous avons déjà une posture intéressante quant à la destinée. David monte sur le trône donc à la mort de son père en janvier 1936, et donc sous le nom d'Édouard VIII. Il va montrer assez rapidement son agacement, son rejet, son refus des protocoles de la cour, et bien sûr, les hommes politiques s'inquiètent un peu déjà de ce nouveau roi qui ne se rentre pas dans les choses bien établies. Mais voilà que quelques mois à peine après le début de son règne, il provoque une crise constitutionnelle en demandant en mariage une femme mondaine, américaine, divorcée une première fois et en instance de divorce de son second mari. Et alors là, les membres du gouvernement, bien sûr, s'opposent en bloc à cette union, en prétextant, en avançant que le peuple n'accepterait jamais comme reine une femme dont les deux ex-époux étaient encore en vie. Et en plus, un tel mariage serait rentré en conflit avec le statut d'Édouard VIII, de chef suprême de l'Église d'Angleterre, qui s'opposait au remariage de personnes divorcées si leurs anciens époux ou épouses étaient toujours en vie. Bref, à cette époque spécifique de sa vie, le roi Édouard a dû se trouver à la croisée de deux destinées complètement différentes. L'une, où il règne jusqu'à sa mort en 1972, et où Élisabeth aurait pris le relais pendant 50 ans derrière lui. L'autre, de l'autre côté, une vie libre avec celle qui faisait battre son cœur. Édouard choisit l'amour et il abdique plutôt que de renoncer à sa relation. Et voilà le règne le plus court de l'histoire de la couronne, 325 jours, mais c'est son choix. Son frère Albert reprend le sceptre sous le nom de George VI jusqu'à sa mort en 1952. Et voilà qu'Élisabeth, l'aînée de deux sœurs, se retrouve reine d'Angleterre et du Royaume-Uni. Comme son oncle, la jeune fille aurait peut-être pu très bien argumenter, se défiler. Je n'ai pas la maturité, je n'ai pas les épaules, c'est un rôle important et c'est un poste tellement important que je ne peux pas. Mais qui alors? Sa sœur Margaret, elle était plus jeune qu'elle encore. Elle accepte donc la couronne qui se pose sur sa tête comme une évidence, comme s'il n'y en avait aucune autre au monde pour la recevoir. Elle n'avait pas choisi au départ cette destinée. Les circonstances les lui ont imposées d'elle-même. Elle s'est retrouvée dans quelque chose qui était déjà tout construit pour elle. Mais de cette destinée dans laquelle elle s'est retrouvée et qui a restreint toute sa vie, sa liberté, elle a fait quelque chose de magnifique et de formidable. Elle l'aura embrassée, assumée avec un grand sens du devoir et probablement y aura trouvé son bonheur chemin faisant. C'est en tout cas une vie dont elle a su faire sens, même si pour l'essentiel, d'autres l'auront pour les grandes lignes pensée et dessinée pour elle. Alors d'autres personnages dans la famille ont eu fort à faire avec cette destinée que le protocole voulait leur imposer et ont bien essayé d'y échapper d'une manière ou d'une autre, d'échapper à cette vocation. On pourrait parler pendant longtemps, j'imagine, de Lady Diana, qui justement a voulu échapper à toute la pression et la pesanteur du système monarchique, tout comme Harry aujourd'hui qui a pris un peu de distance avec tout ça. Et on pourrait parler de Charles, dont la destinée est rebondie aujourd'hui dans une nouvelle étape pour laquelle il a passé toute sa vie à se préparer et qu'il embrasse lui aussi complètement aujourd'hui. Pour chacun, il a dû y avoir des combats intérieurs, des résistances, des larmes aussi probablement. Mais au bout du compte, leurs décisions ont fait leur choix de vie, leur destinée. Mais mes amis, il n'y a là rien de nouveau, on l'a entendu. Moïse, par exemple, avait déjà plusieurs fois essayé de fuir la tâche à laquelle il était appelé, prendre la tête d'un très grand groupe d'esclaves désorganisés pour les faire sortir du pays d'Égypte. Et on entend ces résistances. Il répond à Dieu, « Voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, mais ils diront, l'Éternel ne t'a point apparu. » Alors Dieu lui donne différents signes pour le rassurer. Trois signes sur sa route pour le fortifier dans l'idée que c'est la bonne direction à prendre pour sa vie. Mais malgré ces signes, Moïse reprend. « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme à la parole facile, et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, et ce n'est même pas depuis que tu parles à ton serviteur, ce n'est pas parce que je suis ému, ça a toujours été comme ça. Hein, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et vous savez, il y en a d'autres dans la Bible, le prophète Jérémie, c'est pareil, lorsqu'il raconte cet appel que Dieu lui a adressé, pour lui en particulier, il écrit « L'Éternel m'adressa la parole en ces termes, « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. » Je répondis « Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. » Alors vous voyez ici, ce n'est pas le protocole officiel qui empêcherait la destinée de Moïse ou de Jérémie de librement s'accomplir, mais c'est eux-mêmes qui se mettent des barrières auxquelles peut-être ils croient eux-mêmes, dans leur cœur, dans leur fort intérieur. C'est leur propre fuite qui les empêche d'entrer dans leur destinée, leur propre doute. « J'en suis pas capable, il y a trop d'inconnus dans cet inconnu. » Je ne parle pas bien, je ne sais pas parler, je suis trop ceci, trop cela, trop jeune, ou pas assez ceci ou cela. Comment savoir, mes amis, où nous sommes attendus? Où est notre épanouissement? Où est notre place? À faire quoi? Pour qui? Comme pour nous tous, ces questions restent valables et nous y répondons chacun selon ce que nous sommes. Pour certains, comme pour la reine Élisabeth, par les circonstances. Leur chemin est alors une évidence et cela se jette à fond dans l'accomplissement de cette destinée qui s'impose à eux par les circonstances. Dans le cas de la reine, d'ailleurs, je ne crois qu'à aucun moment elle ne s'est dit « Oh, je n'en suis pas capable ». J'imagine plutôt qu'elle s'est dit quelque chose comme « Si Dieu me place là, il me rendra digne, il me rendra capable. » Je pense que c'était bien plus son attitude intérieure. Alors pour d'autres d'entre nous, comme Moïse ou Jérémie, quand il y a des résistances au départ, des gros doutes, des questions, parce que rien n'est tracé d'avance, il faut alors des signes. Et il nous faut savoir repérer ces signes sur nos routes, et tout comme pour les prophètes d'autrefois, il nous faut aussi parfois de nombreux signes qui peuvent être groupés ou s'espacer dans le temps pour que finalement on se laisse convaincre. Et encore, nous avons bien souvent tellement de résistance en nous. Vous l'avez compris, il n'y a pas une bonne manière de vivre notre destinée, soit elle est tout agencée et nous y entrons pour y faire notre bonheur et celui des autres au passage, soit nous la dessinons. Nous la forgeons nous-mêmes et l'exercice n'est souvent pas plus facile. Enfin, les circonstances peuvent aussi s'imposer à nous et nous n'y entrons pas vraiment. Nous résistons, tout en nous résiste. Et nous subissons alors notre destinée qu'un autre, que les circonstances nous imposent. Mais qu'elle soit grande ou humble, qu'elle soit grandiose ou anonyme, ces destinées qui sont les nôtres sont toujours appelés à se vivre avec sens, avec grâce, dans l'épanouissement et le bonheur, parce que nous n'avons qu'une vie, ce qui la rend très précieuse. Il n'y a pas de deuxième essai, il n'y a pas de deuxième destinée que nous pourrions vivre un de ces jours. Nous avons une destinée, ce qui rend très important nos choix. Si nous sommes dans une destinée qui est dessinée, dictée par les circonstances ou par d'autres, nous pouvons décider volontairement d'y entrer et de l'adopter en en faisant le meilleur pour soi et pour les autres, comme la reine. Mais nous pouvons aussi nous soumettre à quelque chose qui est tout dicté pour nous, mais dans l'amertume, dans une vie malheureuse, mais là aussi, ce serait notre choix. Mais si nous la dessinons nous-mêmes, si nous dessinons nous-mêmes les contours de notre devenir, si nous voulons donner à notre parcours un sens que nous décidons, lorsque nous hésitons à choisir entre plusieurs chemins, qui changeraient beaucoup de choses selon celui qu'on emprunte, eh bien, sachons faire taire toutes ces résistances qui habitent en nous pour chercher l'esprit clair à discerner les signes que l'Éternel place sur notre route et enfin, une fois que nous avons ces signes, choisir. Et vous remarquerez que quand c'est un bon choix de vie que nous faisons, il y a comme une paix intérieure incroyable qui se pose sur nous, qui pourrait même être comme un signe, là aussi, peut-être a posteriori, comme une confirmation. Une confirmation que c'était le bon pas à faire. Voilà en tout cas, mes amis, de quoi réfléchir à nos propres parcours de vie et à la manière dont nous dirigeons nos propres destinées. Nous allons, si vous voulez bien, en hommage aux 70 ans de règne de la reine Élisabeth II, observer ensemble une minute de silence. Mais je voudrais juste auparavant conclure notre propos par une citation de Jean de La Fontaine. Il évoque un paradoxe intéressant et qui me paraît très vrai, sur lequel je vous laisse méditer. On rencontre sa destinée souvent par les chemins qu'on prend pour l'éviter. Amen.